Bien, bonsoir. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue en notre nom à tous au professeur Adrian Goldin que nous avons la joie d'accueillir ce soir. Je pense que les problèmes de transport, nous sommes dans une actualité sociale en France qui... en même temps motive pour apprendre sur les évolutions du droit du travail, mais aussi dissuade parce que aujourd'hui les transports sont un petit peu compliqués. Le professeur Adrian Goldin est l'un des juristes du travail les plus connus et c'est sans doute l'un des meilleurs spécialistes d'Amérique latine. Il est connu bien au-delà de l'Amérique latine et qui pourra nous éclairer ce soir, c'était l'idée, sur les évolutions des droits du travail. Parce que Amérique latine, le singulier, recouvre une pluralité, un grand pluriel de pays et d'expériences. Mais de fait, pendant, disons, toute une période, tout le début de ce siècle en tout cas, l'Amérique latine a représenté une sorte d'exception géopolitique en matière sociale. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont attiré... l'attention et il paraissait très intéressant de pouvoir faire un point sur la situation présente. Alors, le professeur Goldin est professeur titulaire, a été au début de sa carrière d'abord professeur titulaire à l'Université nationale de La Plata. Et puis, il a ensuite été professeur à l'Université de Buenos Aires, et, dont il a dirigé le département de droit du travail. Puis, il a été professeur à l'Université, alors je ne voudrais pas mal prononcer, de San Andrés. Mon espagnol est inexistant, parce que pour les Français, il faut choisir soit l'italien, soit l'espagnol, et moi, c'était l'italien, donc... C'est un drame, il faut me pardonner. Il connaît bien la France, puisque le professeur Goldin a été... D'abord, il a fait des séjours, il a été professeur invité dans plusieurs universités, notamment à Paris 2, Panthéon-Assas, à plusieurs reprises, à l'Université de Nantes. Il a aussi été fellow de l'Institut d'études avancées de Nantes. Il a été professeur invité également au Chili, en Colombie. Et il a, entre 2012 et 2015, présidé la société qui réunit à l'échelon mondial les juristes du travail, qui est la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale. Et il est toujours président honoraire de cette société. Je dois dire que sa présidence a été marquée par un souci de dépoussiérer un peu l'organisation et de faire place notamment... aux jeunes chercheurs, de leur donner les moyens de circuler, de se faire connaître. Et ça a été extrêmement bénéfique. Il est membre de l'Académie ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale. Et durant sa carrière, il a beaucoup consulté pour les organisations internationales, au premier rang desquelles l'Organisation international du travail, mais aussi la Banque interaméricaine de développement, le Centre interaméricain d'administration du travail ou le Programme des Nations Unies pour le développement, pour lesquels il a mené de nombreuses activités. Je ne vais pas vous donner la liste de tous ces travaux qui est fort abondante. Mais sachez qu'un certain nombre des publications du professeur Goldin sont accessibles en français. Il a publié notamment dans le bulletin de droit comparé du centre CNRS de droit comparé du travail, le CompraSec de l'université Bordeaux 4, d'ailleurs dont il est membre du comité consultatif. Alors, ces dernières années, parmi ces nombreux ouvrages, je voudrais dire à titre personnel que... Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble au début des années 2000 dans le cadre d'un groupe de travail qui avait été mis sur pied pour réfléchir à l'évolution de ce que l'Organisation internationale du travail on appelle les instruments normatifs au plan international. Donc c'était une première réflexion que nous avions tenté d'avoir pour voir si à côté du système des conventions internationales telles qu'il a été mis sur pied à partir de la création de l'OIT en 1919, il n'y avait pas place pour de nouveaux types d'instruments qui permettraient d'avoir, disons, une approche moins statique et légaliste et d'avoir davantage un effet d'incitation, parce que la mission de l'OIT n'est pas de faire un code du travail mondial qui s'applique de façon uniforme, mais de soutenir les efforts des pays qui veulent améliorer l'essor des travailleurs dans leur propre pays sans être handicapés par les pratiques des pays qui ne font pas de tels efforts. On peut dire que c'est ça sa mission. Et nous avions, à l'époque, réalisé un travail collectif, et la proposition qui avait été faite, qui avait été rédigée tout entière par Adrian Goldin, a été publiée en plusieurs langues, et notamment en français, dans un numéro spécial de la revue de la semaine sociale L'AMI, dont le titre était, du numéro était « Protection sociale et travail décent », et qui, je le confesse en présence de la rédactrice en chef de la semaine sociale, se trouve en ligne aujourd'hui sur le site du Collège de France. J'avais demandé à Adrien Goldin aujourd'hui de nous parler de l'évolution et des perspectives sur les droits du travail en Amérique latine. Et je vais donc à présent lui passer la parole en le remerciant encore très chaleureusement d'avoir fait le voyage depuis Buenos Aires. C'est un voyage, il est arrivé dimanche, il repart jeudi. Mais enfin, il m'a dit qu'il était remis du jet lag, qui est, pour ceux qui sont allés en Argentine, il y a la rotondité de la Terre, c'est plus loin qu'on ne pense et plus fatigant qu'on ne pense. Mais enfin, merci encore. Et donc, tu as la parole. Je crois que tu es équipé de ton micro, donc je te cède la parole.
Alors, merci beaucoup, cher Alain, et merci au Collège de France. Merci à tous vous qui sont ici pour cette opportunité que j'ai. Essayerai de le remplir, mais je ne sais pas si je serai capable de le faire. Pour commencer, je voudrais faire une brève approche théorique pour donner quelques contenus à mon exposé. J'ai travaillé il y a quelque temps sur s'il existait une idée historique basique du droit du travail. J'arrivais à la conclusion de que peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, et que cette idée était donnée quand les contrats étaient arrivés au droit de travail. Les contrats avec sa lumineuse expression de liberté. Je demande si on écoute bien, sans problème. D'accord, merci. Alors, les contrats a signifié pour le droit de travail que l'effort de travailleurs soit reconnu comme une activité volontaire. Jusqu'à ce moment-là, le travail était soumis à des formes de prestations qui n'étaient pas libres, qui n'étaient pas volontaires. Alors, les contrats ont pris ce contenu de liberté. C'est l'aspect, je l'appelle, lumineux du travail. La liberté, les contrats comme liberté, mais en même temps, et comme vous le savez très bien, les contrats signifient aussi soumission, les contrats signifient aussi assujettissement. Et c'est le contenu de la dépendance qui fait cet effet. Alors, je crois qu'il faut accepter, et cela est très important, que le centre d'imputation du droit de travail, c'est un mélange indiscernable entre contrat-liberté et contrat-soumission. Et ça, c'est la chose, disons, extraordinaire du droit de travail, qui ne se répète pas dans les autres branches du droit. Et la réaction du droit de travail est celle d'essayer de limiter la soumission. Et alors, je crois, que la version la plus stylisée des droits de travail de celle qui est en centre d'imputation, qui est les contrats liberté, puis les contrats soumission, et la réaction de l'ordonnement avec la limitation de la soumission. C'est une formule aussi élémentaire, mais aussi sophistiquée et complexe qu'on doit tenir compte. Et à côté de ça, voilà la raison de, de cet fait de proposer cette approche théorique. À côté de ça, il existe ce qu'on pourrait appeler les idées particulières de notre travail. L'idée basique, l'idée historique, l'idée générale, l'idée plus universelle, et à côté, l'idée, les idées particulières de notre travail, qui, en général, partagent cette condition de l'idée basique, ça veut dire contrat-liberté, plus contrat-soumission, plus la nécessité de limiter cette soumission, mais chaque régime légal fait cette limitation de l'autonomie de la volonté avec des techniques et des sources différentes. Et pour mettre un exemple, pour me faire comprendre, mais vous me comprenez sûrement très bien, je pourrais dire le droit continental a la loi comme l'expérience juridique la principale, la plus importante, mais le droit anglo-saxon n'a pas la loi. Il a encore la loi, mais pas centralement la loi, mais le volontarisme des syndicats et l'abstention du législateur et aussi du juge. C'est vraiment notable que le droit des précédents, nonobstant l'abstentionnisme du juge et du législateur pour faire la tâche qui ont presque tous les droits de travail, de limiter la soumission. Alors, pourquoi je fais cette approche théorique? La première raison, parce qu'il me plaît. Mais la deuxième, et dans ces cas-ci la plus importante, est parce que je voudrais considérer les droits du travail latino-américain comme une idée particulière du travail. Même si je ne crois pas qu'il soit nécessairement l'existence d'une entité qu'on peut appeler les droits latino-américains du travail, mais cette idée de l'idée particulière m'aidera à pouvoir considérer les traits communs, qui est absolument nécessaire pour une présentation si brève, parce qu'on pourrait, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, et je ne le ferai pas pour votre tranquillité, mais on pourrait faire aussi une analyse des différences entre les différents droits de travail d'Amérique latine, mais c'est pour la prochaine invitation, sur laquelle je rêve beaucoup, mais sympa. De cette façon, j'essaierai de considérer les droits de travail. Je n'aime pas d'utiliser cette PPT, mais je le ferai jusqu'au moment que je ne peux plus. Et le moment que je ne peux plus, j'abandonne et vous me tolérez, s'il vous plaît. J'essaierai de considérer les droits de travail latino-américains comme constituant une certaine idée particulière de leur travail, sans croire, comme je viens de dire, qu'il existe une entité de cette caractéristique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée particulière du droit du travail? La première est bien connue pour tous vous, mais il faut la retenir parce que c'est très important. Tout partage l'idée historique de base du droit du travail. Le droit de l'Amérique latine partage ces idées basiques. Mais aussi que tous ceux appartiennent au système juridique continental, ce qui fera plus facile de savoir que ce que nous avons entre les mains. Et tout ce partage, à cause de l'influence de l'Europe occidentale, bien sûr, sur laquelle je reviendrai plus tard. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça signifie que la loi, comme un collègue espagnol a dit, c'est la première expérience juridique du droit. Ça signifie l'ordre public social. Ça signifie l'active intervention de l'État. La prévalence des lois impératives, comme dans le cas du droit français, par conséquent, impossible d'être déplacé au détriment du travail. Au moins, il était impossible de le déplacer au détriment du travail. Et un système de sources qui est un mélange à dosage différent dans chacun de ces pays des lois et des conventions collectives. Et je veux dire ça, et qui est en fait un schéma complexe de techniques pour la restriction de l'autonomie de la volonté. Ça, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Le système des sources de travail est un système, un schéma de limitation de l'autonomie de la volonté. Et je me rappelle d'avoir parlé avec mon collègue Alain Scipio. Il disait qu'il cherchait, et le problème qu'il trouvait, ce qui était les clés d'intelligibilité du droit de travail. Et je crois que celle-ci, considérer les systèmes de sources de droit de travail comme un système de technique pour la limitation de la volonté, pour moi, est une clé d'intelligibilité du droit de travail qui est très important. C'est pour ça que j'insiste sur son idée. Il faut dire que je vais parler des manques d'effectivité, je vais parler d'un biais très négatif de nos droits. La région présente au texte, au moins au texte, dans sa littéralité, un niveau de protection élevé par rapport aux autres régions. Nonobstant, le droit du travail de l'Amérique latine exprime ce que mon maître italo-argentin Mario De Veali a appelé la crise d'authenticité, l'écart entre les droits et la réalité, qui s'expresse dans certains phénomènes qui sont évidents, mais il faut les nommer. La première, la plus importante, le travail informel et la vague couverture de l'appareil institutionnel. Je veux dire pour ça que dans mon pays, par exemple, il y a un 35% de travail informel. Mais il y a des pays dans l'Amérique latine où la informalité arrive au 70%. Et la moyenne est de 115%. Et il faut tenir compte que ces 115% de la force de travail contribuent au product intérieur brut avec non plus du 20%. Ça veut dire, ça explique ce qui se passe avec cette informalité. Mais au-delà de l'informalité, même dans le secteur où il y a le travail formel, il y a une tendance au non-respect, non-accomplissement des normes du droit du travail. Il y a une culture de l'anomie, qui est un problème très sérieux pour nos pays, particulièrement pour le mien, l'Argentine. Et peut-être ici les clés de ce phénomène. On donne plus d'importance à l'existence de la loi qu'à l'application effective de la loi. Vous pouvez comprendre quand j'ai dit que nous avons un niveau de protection supérieur à le vôtre. Mais on ne l'applique pas, alors c'est très important. Et ça a quelques relations avec les expériences autoritaires dont je vais parler en 5 minutes. On donne une plus grande importance à l'existence de la loi qu'à l'application effective de la loi. Et il y a la faiblesse des appareils d'application, je veux dire l'inspection du travail, le ministère du travail. Les dominants en citation coûtent à effreindre les règles. Les sanctions sont trop bas Et alors, ce sont des incitations courtes et on peut prendre les règles, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, nous avons ce phénomène de la crise d'authenticité dont on doit dire que l'informalité et le non-respect de réglementation et la nécessité évidente de les réduire font partie de l'idée particulière de droit de travail en Amérique latine. Pourquoi ces phénomènes on peut attribuer, et peut-être attribuer, un développement législatif et qui a été plutôt des concessions des gouvernements de signes différents et avec des motivations différentes, mais pas sans réponse aux revendications et aux luttes des travailleurs. Et dans beaucoup de cas, même avant les processus d'industrialisation. Une raison de cette... et aussi, il est votre faute. Parce que ces normes sont les produits de l'influence de précédentes européennes et depuis les années 20, de la très grande influence des conventions de l'OIT, qui pour la plupart, comme on le sait, ça inspire également des expériences européennes. Tout ça sans avoir nécessairement une corrélation avec la réalité sociale, technologique et industrielle qui prévalait à l'époque dans la région. Peut-être que il y a quelques raisons. Je vais signaler deux tendances, une fois plus sur le sujet des sources, des tendances très importantes. C'est la première, les processus de codification qui s'est développé durant presque 40 années et sous l'influence originale du code du travail chilien et mexicain. Presque tous les pays de l'Amérique latine ont des codes de travail, à l'exception à ce moment-ci seulement de l'Uruguay, l'Argentine et le Pérou, qui n'ont des codes de travail, qui n'ont pas de loi générale de travail. Et cette séquence codificatrice, obéissant déjà à des considérations d'émulation ou de prestige, on atteint une implantation surprenante. Et l'autre processus que je voulais signaler, c'est le processus de constitutionnalisation. Et dans le cadre du cycle de retour à la démocratie, la majorité des nouvelles constitutions, je veux dire, l'Amérique latine a subi de tyrannies très importantes jusqu'aux années 80. À partir des années 80, surmonté ce phénomène, dans les cycles de retour à la démocratie, la majorité des nouvelles constitutions, je vais mentionner Brésil, Colombie, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay et Pérou, consacrent des chapitres importants à la protection du travail. Et ici, je crois qu'il y a un fait contradictoire qu'il vaut la peine de remarquer. Il faut remarquer le fait contradictoire que tandis que les lois, au moment de la flexibilité, ont eu une tendance à remettre en cause les droits de travail, les constitutions approuvées à la même époque, c'était l'époque de la démocratie, avaient une tendance à les renforcer. Au même moment, les lois avaient une tendance à mettre en cause les droits de travail, eux, les constitutions avaient une tendance à les renforcer. Quelque chose qui semble extraordinaire, mais peut-être cette option des nouvelles constitutions a été une forme d'exorciser l'histoire diabolique des expériences autoritaires précédentes. On a eu des contradictions entre le processus de flexibilisation, bien sûr, et les constitutions existantes à ce moment. Comme un produit du processus de constitutionnalisation que je viens d'évoquer, dans la région... c'est mon problème avec le PPT. Comme un produit du processus de constitutionnalisation que je viens d'évoquer, dans la région, s'est enregistré en abondante jurisprudence et législation en matière de reconnaissance des droits fondamentaux de la personne au travail. Dans divers domaines, je vais mentionner quelques-uns parce qu'il est très abondant, très simple, le respect de la vie privée, l'intimité, l'opinion et l'expression, la liberté idéologique et religieuse et des autres droits, la défense, la protection de la propre image, l'élection de la propre orientation sexuelle, tout ça a été traité par la jurisprudence de nos pays. Et il faut dire, et pour moi c'est une deuxième clé d'intelligibilité, tu pourrais avoir choisi un mot moins complexe que intelligibilité, les clés de compréhension du droit du travail, cette processus de reconnaissance des droits de la personne dans le travail, s'il s'agit d'une nouvelle contribution à la fonction de limitation de la soumission. Vous vous rappelez que je dis que dans cette idée basique, historique du droit du travail, il y avait contre la liberté, plus contre la soumission, plus une réaction pour limiter la soumission. Et cet processus de reconnaissance des droits de la personne au travail, c'est une nouvelle contribution à la fonction de limitation de la soumission. Je vais mentionner des autres caractéristiques pour le faire très rapide. Il s'agit de régimes juridiques plutôt influencés que transplantés. Ça veut dire que l'une des différences significatives qui distingue le droit du travail des nations latino-américaines des autres appartenant des pays en voie de développement est que les premières, les nôtres, ceux de l'Amérique latine, sont des droits influencés qu'expriment la tradition juridique héritée de l'Europe continentale. Mais ils ne sont pas de droits transplantés. La plupart des pays de la région ont obtenu son indépendance dans les 30 premières années du siècle XIX, avant les processus d'industrialisation. Alors, il n'y avait pas encore de droits de travail pour être transplantés. Je dirais que nos régimes légaux expriment un point moyenne entre les plutôt droits nationaux de la plupart des pays du Nord et les droits transplantés de beaucoup des pays du Sud. La deuxième signal que je l'avais déjà mentionné, c'est une influence remarquable du BIT, de l'OIT et de ses conventions. Il y a des conventions qui ont été et qui continuent à avoir une influence décisive sur les droits de nos pays, particulièrement influente les conventions sur les limites au temps de travail, la protection de la maternité, l'âge d'accès au travail dans l'industrie, les accidents du travail. Comme on a dit tant de fois à l'OIT, bien que tous les pays de la région ont mis tous ces droits dans ses propres législations, pour que chacun des pays est très important que les restes des pays aussi accomplissent cette convention. Parce que quelquefois, on dit « mais l'UIT ne m'intéresse pas parce que nous avons déjà complété cette institution principale ». Non, non, non. Il nous intéresse parce que dans les marchés où on converge avec d'autres pays, il faut que les autres pays aussi accomplissent cette convention. La troisième, que je crois qu'il faut mentionner, que cette appartenance au système juridique continental n'empêche qu'on peut dire que nos pays n'ont reçu pleinement les modèles sociaux européens, bien qu'à ce moment il est nuancé et mis en question, mais ils ne l'ont reçu pas. Nous avons, moi j'ai pensé, une appartenance faible au modèle social européen. Et un des phénomènes plus notables de cette faiblesse, c'est le fait que dans les années 90, 11 de nos pays ont accepté les modèles de retraite de capitalisation individuelle privatisée qui est né dans le Chili durant la dictature chilienne. Et que
Chicago.
C'est correct, il vient de Chili et de Chicago. Il vient de tous deux origines. Et nos pays l'ont accepté à cause de la faiblesse de notre modèle social. Je dirais, et peut-être quelquefois un peu au dossier, mais beaucoup de pays de l'Europe de l'Est ont fait le même. Et ça m'a fait penser qu'ils sont aussi une expression faible du modèle social, peut-être pour l'abandon de ses propres modèles social et historique du socialisme réel. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais en tout cas, il y avait un modèle social consistant et quand on l'abandonne, je crois qu'ils ont passé à un modèle social faible comme le nôtre. Et voilà l'explication de cette acceptation des régimes de retraite, de capitalisation individuelle privatisée qui ont eu beaucoup de problèmes et que l'Argentine a abandonné il y a 10 ans et que le propre Chili a changé, notamment durant le gouvernement de Mme Michelle Bachelet. Et il a mis en addition une composante de solidaire, parce que ce qui se passe avec ce régime, et qu'on l'a vu dans mon pays, mais on le vit partout, c'est que ce régime est très bon pour les retraités qui ont eu des revenus élevés, mais pour les travailleurs qui ont des bénéfices bas, cela n'est pas suffisant. Alors les Chiliens ont dû modifier ça en 2008. Et cette modification n'a été pas modifiée ni durant le gouvernement de M. Piñera. Bien sûr, dans nos pays sont généralisés les tribunaux de travail spécialisés. Nous avons des processus d'intégration qui sont limités du point de vue du droit du travail. Et ce qui se passe dans ces trois processus d'intégration, je veux dire le Mercosur, c'est le nôtre, les marchés communs du Sud, où sont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, la communauté andine des nations, les systèmes d'intégration centro-américains qui ont fait, il faut reconnaître, des progrès importants dans la reconnaissance normative des droits de travail, bien que, comme cela est typique de la tradition latino-américaine, déjà évoquée, beaucoup moins dans son application effective. C'est très évident que je ne dis rien de nouveau. Et je vais parler 5 minutes de cette influence autoritaire dans les droits de travail latino-américains. Je commence à perdre mon public, mais je suis, comme un vieux professeur que je suis habitué à perdre. Après ça, j'ai fait une extorsion. Celui-ci, c'est l'extorsion de dire ça. D'accord. Il y a une influence autoritaire dans les droits de travail latino-américains. On doit distinguer ses propres expériences autoritaires et aussi les expériences autoritaires importées de la vieille Europe. Et je venais décider à vous faire des amputations très graves. Hein. Et je vais distinguer les influences des expériences autoritaires dans les droits de travail individuels et dans les droits de travail collectifs. Dans les droits de travail individuels, on pourrait dire que la relation entre la législation tutélaire et le régime autoritaire qui ont prévalu dans la région ne semble pas avoir modifié ce profil titulaire. sur les normes individuelles. Parfois populiste, parfois paternaliste en Amérique latine, l'État autoritaire était aussi un État protecteur. Alors, il y a eu des modifications très importantes. On dirait, pour avoir les choses claires, à l'exception de la dictature de Pinochet en Chili, qui était une dictature de caractère néolibéral. Pour illustrer la relation étroite entre le régime autoritaire et le droit du travail, un collègue à moi qui a été fonctionnaire du BIT à Genève et à San José de Costa Rica durant 30 ans, Arturo Bronstein, a mentionné le code du travail que portent les noms de dictateurs, et que ce sont plusieurs. Le code Somoza en Nicaragua, le code Stroessner en Paraguay, le code Duvalier en Haïti, le code Trujillo à la République dominicaine. Alors, ces gouvernements autoritaires ont eu un profil fortement tutélaire. Mais son influence, cette influence dans les droits de travail collectif est bien différente. Nous avons eu les expériences propres et les expériences autoritaires particulièrement. Dans les cas argentins, l'influence de l'Italie fasciste, l'Italie mussolinienne, et aussi l'influence de l'Espagne de Franco, l'Espagne franquiste. Dans les cas brésiliens, l'Estado Novo de Oliveira Salazar. Avec un phénomène, à mon avis, remarquable, d'où j'ai fait des questions et je me demande, tandis que ces régimes syndicaux autoritaires ont été abandonnés dans ces pays d'origine au même moment qu'on a fait le passage de l'autoritarisme à la démocratie, dans nos pays, ces régimes autoritaires subsistent jusqu'à nos jours. Il y a une différence appréciable qui a, j'ai fait quelques recherches sur les raisons sur notre cas, je veux dire le cas argentin, c'est un régime qui est défendu très emphatiquement pour le dirigeant syndical, subsiste jusqu'à nos jours. Il y a aussi des restrictions à la liberté syndicale qui n'ont pas été totalement surmontées, même dans des pays qui ont déjà des références démocratiques aussi assez intéressantes, comme les cas de Chili et les cas de Costa Rica. Moi, j'ai fait des missions dans le cas de Costa Rica, et c'est extraordinaire. La société costarricense, nous disons en espagnol, je vais chercher les gentilices en français, notamment antisyndicale. Et ils ont cette expérience de cette association solidariste, qui est une expression d'un mélange entre la présence des travailleurs et la présence des employés, les comités permanents des travailleurs. J'ai dû faire pour les comités de la liberté syndicale un rapport sur ces comités permanents. Et ces pays sont profondément démocratiques, mais conservent des traits de cet autoritarisme qu'ils ont pu surmonter. Dans le champ de relations collectives du travail, où l'expérience autoritaire a eu ses projections les plus intenses, a conduit dans la plupart des pays de la région à la configuration imposée d'une structure syndicale limité au domaine de l'entreprise. Dans la plupart des pays de l'Amérique latine, cette trait autoritaire a conduit à la configuration imposée d'une structure syndicale limitée au domaine de l'entreprise, faisant donc la syndication souvent inaccessible vu la petite taille de la plupart des unités de production, avec des restrictions même pour formation des fédérations et des confédérations. Pourquoi ? Il s'agissait dans ces cas de contrôler l'action syndicale par le biais d'empêcher l'accumulation de pouvoir qui résulterait d'un syndicalisme centralisé et uni. Mais il y a un autre modèle dans l'Amérique latine. Dans certains autres pays de la région, en revanche, notamment l'Argentine et le Brésil, la stratégie de contrôle a été bien différente en ce qui concerne les structures imposées. Et ici, l'expérience corporative de l'Europe autoritaire des siècles derniers. D'une telle manière qu'a prévalu dans ces pays l'imposition de régimes très centralisés. En Argentine, comme j'ai déjà dit, l'influence de l'Italie fasciste, le général Perón, c'est le président de son gouvernement, on a établi le régime syndical, avait été agréé militaire dans l'Italie de Mussolini. Et je crois qu'il a compris l'utilité de ce régime des syndicats unis et il a importé à mon pays. Donc, ces régimes sont fortement centralisés par imposition de la loi, alors un régime de centralisation imposée, tant du point de vue de leur implantation territoriale fonctionnelle, même sous la forme de monopole représentatif. En Argentine, il y a un régime de syndicat unique que la Suprême Cour argentine a mis en question et l'UBIT aussi a mis en question, mais aussi de son structure de gouvernement fortement pyramidale. Qu'est-ce qu'on cherchait ? La même chose que dans la décentralisation imposée. Tout ce qui rendrait possible les contrôles politiques d'anneaux et du dehors. Alors, pour synthétiser, il y a toujours des difficultés dans ces simplifications d'un peu de mots, mais on peut dire que dans l'Amérique latine prévalent deux modèles syndicaux, celui de la centralisation imposée et celui de la décentralisation imposée, et tous les deux d'une conception des lignages autoritaires, les deux modèles sont loin dans leur conception d'être d'accord avec les principes de la liberté syndicale qui découlent de la Convention 87 et de la Convention 98. Il faut dire, nonobstant, que dans de nombreux cas, ils ont connu en cours des dernières décennies, je veux dire les décennies de la démocratie, ils ont connu des changements encourageants induits pour la logique démocratique souveraine, qui les auraient poussés sans attendre complètement vers un point de convergence marqué par les conventions 87 et 98. Mais sans atteindre complètement le principe de la liberté syndicale. C'est une caractéristique. Alors je crois que l'influence des régimes autoritaires sur le système de relations collectives de travail perdure jusqu'à nos jours. Il faut souligner que c'est le Mercosur où il existe les tendances centralisantes les plus profondes, parce que c'est au Mercosur où sont l'Argentine, le Brésil et même l'Uruguay a aussi un système centralisé d'organisation syndicale et de négociation collective, mais sans une raison qu'on peut qualifier d'autoritaire. C'était un fait étatique, nonobstant. C'était l'État qui a décidé la formation de ce qu'on appelait les conseils des salaires pour faciliter la négociation collective. Et cela a déterminé la centralisation de la négociation collective et de la structure syndicale. Alors, dans les Mercosur, de quatre pays qui sont membres pleins à ce moment-ci, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, le Venezuela a été suspendu et n'appartient pas à ce moment au Mercosur. De ces quatre pays, trois ont des régimes centralisés et bien sûr, on doit dire, ils sont les systèmes de négociation collective les plus développés. Si je pourrais quelques conclusions sur les influences autoritaires, je pourrais peut-être décrire un peu des mots de quels seraient les modèles, les systèmes de droit de travail autoritaire. C'est un système de forte protection des droits individuels, mais de sévères restrictions à l'action collective. Nous sommes d'une façon, nous avons l'expérience de cette fête autoritaire. Nous avons eu des processus de réforme de flexibilisation, comme vous avez vu aussi, et vous avez à ce moment-ci. Ils ont été de processus de flexibilisation d'intensité divers, les plus intenses en Argentine, au Pérou, en Colombie, en Équateur, au Panama, et plus légère en Guatemala, au Nicaragua, au Venezuela et en République dominicaine. Certains pays ont entrepris une certaine flexibilisation sans réforme légale, due au climat de flexibilisation qui a fait que déterminées actions des gouvernements, des employeurs, des syndicats semble être d'accord avec la ligne de la flexibilisation. Et en même temps, d'autres pays ont entrepris des processus pour améliorer la protection des travailleurs, qui sont Venezuela, République dominicaine, Paraguay et El Salvador. Qu'est-ce que ça signifiait ? Qu'est-ce que signifiait l'introduction de la flexibilité ? Vous les connaissez parfaitement. C'était la facilitation de l'embauche temporaire, la flexibilité de la journée de travail, la réduction de la protection contre le licenciement, la délaboralisation, je ne sais pas si vous utilisez ce mot, délaboralisation, nous avons le mot qui veut dire de traiter une relation dépendante comme s'il ne le fût pas, comme s'il n'était pas. La délaboralisation. J'ai agréé mot de la désalarisation qui implique de traiter un concept salarial comme s'il ne l'était pas. En tout cas, avec la finalité de réduire les coûts de travail. Ce sont de vies indirectes de flexibilisation. Et bien sûr, l'incitation à l'externalisation et la décentralisation productive. On doit dire en général, et pour finir avec cette référence, qu'on était des processus plus sensibles aux exigences de flexibilité externe numérique, conçues pour promouvoir la réduction nominale des coûts, et moins réceptives de la flexibilité fonctionnelle et interne. On doit dire aussi que dans cette même époque, que c'était l'époque de la démocratie, parce qu'il y a une différence bien claire entre l'époque du gouvernement autoritaire et l'époque de la démocratie, ces processus de flexibilisation, à l'exception de celui de Chili, ont eu effet durant les années de la démocratie. Dans ce même espace de temps, on a pu voir la récupération des espaces de liberté d'association, d'où je viens de mentionner il y a cinq minutes, et la privatisation des pensions dans 12 pays de l'Amérique latine selon le modèle chilien. La réforme n'était pas virtuée, les résultats, et ça explique que l'on a abandonné. on a produit une baisse de l'emploi, le chômage qui était de 7,1% avant le processus de flexibilisation a augmenté à 11% l'année 2000. Une baisse des salaires, un plus grand écart de revenus entre les travailleurs formels et informels, moins de sécurité de l'emploi, affaiblissement général de la protection du travail, peu de progrès dans la réduction de la pauvreté. Dans toute la région était du 48,3% en 1990 et a passé à 44% en 2002. Et la privatisation des pensions n'a pas amélioré la couverture, du régime de pension. L'Argentine, comme j'ai dit, a abrogé le régime de capitalisation individuelle et le Chili l'a réglementé. En tout cas, les collègues qui ont étudié la question et moi-même pensent que les réformes juridiques des années 90 n'ont pas ébranlé les fondements structurels des droits sociaux d'Amérique latine. Ce sont des réformes plus liées à l'intensité de la protection qu'à des transformations substantielles. Dans les années 2000, on a produit une suspension virtuelle du processus de réforme et dans certains cas, même de reflux, de contre-réformes. Pour conclure, on peut dire que l'idée particulière latino-américaine du travail, même si affaiblie, n'a pas été radicalement changée. Mais il a produit des affaiblissements. Et pour présenter très rapidement ces affaiblissements, je vais les distinguer. Les affaiblissements normatifs, ça veut dire la demande de flexibilité et la dérégulation. Réduction de l'intensité de la protection, ça signifie en bref perte des ressources de protection. Mais il y a eu aussi un affaiblissement applicatif, c'est-à-dire diminution de la signification politique des acteurs en charge de l'application du droit du travail, du ministère du travail, l'inspection du travail, les tribunaux du travail. Un certain affaiblissement de l'influence syndicale. En notre terme, perte d'efficacité stricto sensu de la loi sociale. Et finalement, pour moi, c'est peut-être le plus intéressant, l'affaiblissement subjectif du droit de travail. Je crois que l'affaiblissement subjectif du droit de travail a été généralisé dans le monde, mais très particulièrement dans nos pays, produit par le chômage, l'informalité, la désintégration verticale des entreprises, la fraude évasive, la fuite du droit de travail. J'ai trouvé que la fuite des droits de travail, un terme qui est né dans l'Italie, Pietrichino était le responsable initial, et après en Espagne, Rodríguez Piñero. Mais c'est notable que les collègues anglo-saxons l'utilisent, évoquant son origine continentale. La fuite des droits de travail, les relations ambiguës, c'est la terminologie du VIT, dans lesquels est difficile d'établir la nature dépendante ou autonome des liens, en bref, une perte de champ d'application du droit de travail. Alors, j'ai signalé dans ces trois affaiblissements une perte de ressources de protection, une perte d'efficacité stricto sensu de la loi sociale, une perte de champ d'application de la loi sociale. Reste peu. Soyez tranquille, reste peu. C'est une trinité pour moi-même, je veux dire. C'est très rapide, hein? J'avais oublié de passer les pages. À ce moment-ci, les tendances actuelles, et je vais lire. Au-delà du processus le plus moderne, tel que ceux de l'économie collaborative, le recrutement médiatisé par des plateformes informatiques, la numérisation et la robotisation, également présents dans l'Amérique latine, mais avec moins d'intensité que dans les économies industrialisées, les phénomènes en cours les plus remarquables sont la déstandardisation. Il existe ces mots en français, vraiment, on peut le dire. La déstandardisation des formes d'utilisation du travail, la précarisation de lieu, la perte de netteté, de limite entre l'emploi dépendant et le travail autonome. Et à cause de toutes ces tendances, approfondit l'affaiblissement subjectif du système de protection du travail. À mon avis, l'affaiblissement subjectif du droit de travail, c'est une des tendances les plus remarquables, les plus significatives du droit de travail, pas seulement dans ma région, mais dans le monde. Et on doit dire, parce qu'on voit ça, que les nouvelles modalités de recrutement des travailleurs reposent fréquemment sur la plus puissante forme d'atypie, ce qui est précisément celle qui tend à ternir la traditionnelle et autrefois déterminante distinction entre travail dépendant et travail autonome. Toutes les formes de recrutement nouvelles transitent cette route, qui bien sûr n'est pas la route plus haute, que c'est celle d'utiliser cette perte de netteté de la distinction entre le travail. Bien sûr, je veux dire, l'économie collaborative repose sur ça, mais toutes les formes. Bon, alors, il faut mettre attention sur ce phénomène parce qu'il tend à se généraliser. À cause de toutes ces tendances, s'approfondit l'affaiblissement subjectif du système de protection du travail. Qu'est-ce qu'on trouve ? Et avec ça, je vais finir. Je ne dis pas toujours la vérité, mais je vais finir. Il arrive beaucoup, mais il faut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Ce phénomène que je viens de remarquer, je veux dire la déstandardisation, la précarisation, l'informalité, la perte de netteté des relations d'emploi dépendants, encourage, en fait, font nécessaire une certaine tendance vers l'universalisation de la protection sociale. Je vais expliquer ça très bref, en deux minutes, mais cette tendance est très forte en Argentine, où on a créé des allocations universelles. On a créé une allocation pour les enfants des personnes sans emploi, informelles ou à faible revenu. On a créé une allocation universelle de grossesse. Et on a créé, ces dernières années, une allocation universelle de retraite pour les personnes de plus de 65 ans n'ayant d'autres pensions ou retraites. Cet bénéfice de l'allocation universelle de retraite inclut la protection de la santé. Aussi en Mexico, la protection sociale de la santé pour chômeurs ou pour les personnes qui travaillent de forme autonome, et au Pérou, l'assurance maladie intégrale, assurance universelle de la santé. À son tour, la déstandardisation du droit du travail encourage la possibilité d'une diversification croissante des systèmes de protection et l'introduction de ces statuts différents pour différentes catégories. C'est l'autre tendance que je crois qu'on doit remarquer. Ce processus aurait tendance à désarticuler l'idée, permettez-moi de le dire comme ça, d'unicité réglementaire. Cette idée traditionnelle du droit du travail, édifiée autour d'un régime unique de protection pour une catégorie unique au principal, celle du travail de dépendance. Il ne faut pas négliger donc l'hypothèse que le système du travail évolue dans le sens de la diversification croissante de ses contenus en envisageant des règles de statut différents pour des catégories différenciées. Dans ces lignes d'idées, en Amérique latine sont créés ou projetés des régimes spéciaux comme ceux des professeurs d'université en Argentine, les projets de réguler les activités des entreprises de l'économie collaborative en Uruguay, Le télétravail en Colombie, le travail dans les centres d'appel au Pérou. Je vais dire quelque chose sur ça. Je crois qu'il y a quelque chose entre la tendance de la protection sociale d'universalisation et la tendance du système de protection de la déstandardisation. À mon avis, ces dernières dispositions expriment une sorte de réconfiguration divergente du système de protection du travail, de la protection sociale. Je ne sais pas si le mot divergent est exact, au contraire, c'est très cohérent ce processus. Alors que dans le domaine de la protection du travail, il semble s'affaiblir les phénomènes de l'unicité réglementaire, comme je dis, en régime juridique complet et presque exclusif pour une catégorie dominante, qui est le contrat de travail indépendant, de sorte que le système de protection du travail se fragmente. D'autre côté, le schéma de la protection sociale, en face à la difficulté croissante de se relier aux expressions atypiques, semble se diriger vers une extension universelle. Sans doute, les propos d'extension de la sécurité sociale dans le monde de l'OIT depuis 2000 ans et la recommandation 202 sur le socle de protection sociale ont cette orientation. De cette façon, on constate un mouvement de ce type. La protection du travail va de l'unité vers la pluralité réglementaire. La protection sociale va de la particularité de chaque catégorie vers l'universalité pour l'attribution de la protection. Je crois que c'est une tendance qu'il vaut la peine de retenir et de penser à ça, parce que je crois que ce n'est pas seulement dans l'Amérique latine, mais peut-être dans le monde. Je vais mentionner très rapidement, pour finir, entre les réformes les plus généralisées, on a fait des réformes procédurales pour améliorer les procédures judiciaires, établissant l'oralité à Costa Rica et à Pérou, la suppression au Mexique des éléments de corporatisme, comme les conseils de conciliation et arbitrage. Je ne sais pas quelle relation avec vos conseils de prud'homme, s'il y a quelqu'un, la spécialisation des procédures de travail dans l'Uruguay. On a fait certaines mesures, on a mis certaines pour la réconciliation entre le travail et la famille, trop peu en comparaison avec l'Europe, au Brésil, au Chili, en Colombie, Costa Rica, Pérou et Uruguay. Et cela est très important. On a fait quelques renforcements de la protection du travail domestique historiquement négligé ou reporté en Argentine, au Brésil, en Costa Rica, en Uruguay. Et finalement, encore flexibilisation normative. Je vais mentionner seulement la de Brésil de l'année dernière, 2017, qui a été extrêmement forte. Tenez compte que le Brésil n'avait pas fait aucune flexibilisation normative durant les 190 et ils l'ont fait très forte dans les années 2017, posant des problèmes pour les restes du pays de l'Amérique latine où on pense qu'on doit faire quelque chose comme ça pour ne pas perdre la bataille compétitive avec le Brésil. Il reste la conclusion, je m'excuse. Pour finir, en raison du cas, je vais lire pour le faire en exactement deux minutes. En raison du caractère non substantiel des réformes des années 90 et les cas échéants de la restauration des institutions précédentes, il est évident que l'idée particulière même de droit, même si affaiblie, n'a pas beaucoup changé dans la région. Et a fortiori, elle ne se séparait pas de cette idée de base du droit du travail qui maintient pour l'Amérique latine des valeurs qui suggèrent et conseillent sa préservation. Je voulais dire que cette idée de base historique dont j'ai parlé dans les premières lignes de cette exposition est préservée encore dans l'Amérique latine. On pourrait cependant penser que le manque d'adéquation du contenu de l'idée particulière Maintenant, je parle de l'idée particulière. L'idée de travail de l'Amérique latine n'est pas toujours une bonne nouvelle. Cette évolution absente, nous avons à peine pu trouver quelques indices de rénovation, pourrait aliéner les droits de travail de la région à partir des faits, des contextes et de plus ceci, les plus récentes, les nouvelles demandes sociales, les nouvelles technologies, les nouveaux arrangements organisationnels du travail, de la production, de l'internalisation des économies, en risquant de les rendre peu capables de résoudre aussi tant les anciennes carences que les nouveaux défis. Et j'ai fait pour finir une hypothèse liée avec mon première approche théorique. La possibilité de conserver en tant que valeur l'idée basique du droit de travail que j'ai décrit dans les premières lignes de cette intervention dépend de la capacité d'adaptation plastique des idées particulières de chaque régime légal ou de chaque ensemble. La congélation de l'ordre traditionnel, aussi confortable qu'il puisse être à nos yeux, ceux des juristes de travail, parce que nous voyons cette conservation avec une certaine joie, et c'est très difficile de parler de réformes, même si ce sont des réformes progressistes dans nos pays. Je veux dire, la congélation de l'ordre traditionnel, aussi confortable qu'il puisse être à nos yeux, ceux des juristes de travail, peut-être un signe de nécrose qui facilite le questionnement plus massif de l'idée matricielle du droit du travail. Merci beaucoup.